Salut Tsugi Radio, vous écoutez Jazz de Two of Us car il est 11h30 comme tous les samedis sur cette émission, sur cette radio que je sais vous chérissez, vous aimez. Aujourd'hui, l'émission est un petit peu particulière, mon invité est aussi un petit peu particulier mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on se trouve quelque part, il s'appelle Jocelyn et nous allons le découvrir juste après ces quelques notes que vous connaissez puisque c'est le générique de l'émission tout simplement.
Tsugi. Tsugi Radio. Jean Fromageau.
C'est vrai que c'est très jazz. Hein.
Ah. Direct, on est mais au cœur du cœur de la meule du jazz.
Le groove. Bonjour Jocelyn.
Bonjour Jean Fromageau.
Bonjour Jocelyn Borda, puisque c'est ton nom de famille. Tu es mon invité aujourd'hui dans cette émission qui s'appelle Jazz de Two of Us. Voilà, il y a plein de particularités aujourd'hui dans cet enregistrement. Déjà, dans une première chose, nous sommes assis dans deux fauteuils, l'un en face de l'autre, ce qui arrive très rarement.
Oui, c'est hyper cosy. Le cadre est magnifique, le cadre lui-même est jazz.
Ouais, exactement. Et pourquoi est-ce qu'on change de cadre? Parce qu'en fait, écoute, on a été invité de manière très sympathique par le Club Med à venir enregistrer une émission de Jazz de Two of Us dans un cadre incroyable, tu l'as dit. Alors, il y a plusieurs cadres, il y en a derrière toi des gens qui font du ski, il y en a sur le côté là, et nous on est vraiment dans cet écrin de la Rosière en plein milieu d'une petite montagne comme ça. Et donc voilà, écoute, on s'est fait quelques petites journées tous les deux à découvrir.
Voilà, ça fait un mois qu'on est invité par le Club Med, qu'on prépare l'émission. Et là, peut-être on a envie de la faire.
On a envie de la faire, ça y est. Exactement.
Mais l'endroit est ouf en vrai. Ouais.
Et tout ça, évidemment, parce que vous allez vous dire qu'est-ce que vous venez de foutre ici, ces podcasteurs à parler de musique dans le Club Med. Si jamais un de ces quatre, vous avez l'occasion d'y passer une tête, restez-y au moins plus de 24 heures, c'est plus sympa. Il y a un programme qui s'appelle le Club Med Live où. Il se passe plein de choses, on propose à des artistes de venir jouer un petit peu, etc., etc., bref. Et là, on s'est dit, au lieu de demander à des artistes de pousser les boutons pour faire les DJ sets, on va proposer au vieux Jeannot et à ses invités à venir parler de jazz, parce que tout le monde meurt. Tous les gens qui parlent de jazz aujourd'hui sont morts, ou sont en train de mourir, donc il faut renouveau.
On salue nos parents.
Voilà. Jocelyn, alors, puisque c'est aussi, aussi ça le principe, je vais quand même recentrer un peu l'émission qui vient de commencer, pour te préciser un peu qui tu es. Toi, tu es auteur.
Oui.
Entre autres, il y a des virgules. Donc, tu es auteur, tu écris pour des gens qui font des choses à la radio, d'ailleurs.
Oui, en fait, alors j'écris des bouquins. Dans le temps, j'écrivais pour Brain Magazine, pour ceux qui connaissent. Et puis, j'écris effectivement pour des humoristes. Et à côté de ça, je fais de la musique.
Voilà, c'est ça qu'on aime bien.
Et des fois, je fais les deux en même temps. Comme par exemple, l'année dernière, j'ai fait une fiction audio pour France Inter, qui s'appelle Zone 51. Et là, pour le coup, je faisais la musique et le texte. Mais c'est assez rare que je fasse les deux.
Très bien. Je vous invite à aller réécouter cette fiction audio qui est très drôle.
Extrêmement drôle.
Ouais. Ah oui. Moi, je t'avais découvert il y a quand même très longtemps avec Nostalgie 2050.
Ah oui, sur Deezer avec Thomas VDB. Je bosse beaucoup avec Thomas. C'était une très, très belle expérience. C'était un talk show qui se passait dans le futur. Et de temps en temps, parce qu'en fait, Thomas est l'inventeur de la phrase « Vous sentez ?» Ça sent le jazz. Donc il répétait ça assez souvent. C'est vraiment la meilleure phrase du monde, hein, tout simplement.
Ouais, tout simplement.
Tu sens, putain, ça pue le jazz, mec. Et il y avait souvent des moments un peu jazzy du futur.
Très bien.
Voilà. Mais dans le futur, on t'écoutait maximum une seconde de jazz. Il disait genre, on se retrouve tout de suite après un petit peu de jazz. Voilà, c'était un petit peu de jazz.
Parfait. Donc c'était un peu ton pédigré. On parlera un petit peu à la fin de l'émission. Je crois que tu sors un disque.
Je sors un disque.
Voilà, exactement, avec nos confrères de France, Radio France Inter.
Voilà.
Mais ça, on en parlera à la fin. Comme tous les invités, tu es venu avec, dans ta besace, du jazz, mais pas que, une playlist en l'occurrence. Est-ce que tu pourrais, comme ça, au débotté, assis sur ce petit fauteuil, un petit peu de billet comme ça, expliquer, teaser à nos auditeuristes qu'est-ce qui va se passer dans cette playlist pendant une heure, et après on va faire point par point avec dans le détail.
Alors ce qui va se passer, il va pas se passer non plus un événement de ouf, hein. C'est-à-dire qu'on va quand même, on va écouter de la musique.
Hein. Ouais, non mais bon, ils ont l'habitude, mais, ouais. mais je préfère prévenir que oui.
Non mais moi je suis trop content parce que j'ai rarement l'occasion de parler de jazz, j'ai un rapport un peu particulier avec ce truc, donc j'espère qu'on en parlera. Par ailleurs, je trouve que c'est super que tu t'empares du sujet.
C'est-à-dire de l'émission que...
Ouais, du sujet du jazz. Je vais parler de ma playlist. Hein. Ah ouais, très bien. Mais je voulais te dire d'abord que c'est vraiment cool qu'il existe un... Parce qu'en plus, c'est pas facile pour toi, parce qu'il y a énormément de podcasts de jazz. Donc c'est dur de percer,
ouais.
quoi.
Ouais, c'est ça.
Et oui, on est assaillis de contenu. Moi, sur Insta, on me dit « Veux-tu venir écouter du jazz ?» Et tout. Donc... Et toi, t'as ce courage, ouais. tu as cette volonté de percer et de... Parce que tu vois, la semaine dernière, par exemple... J'étais au Club Med, j'ai fait un autre podcast qui s'appelait Just Do It. La semaine d'avant, j'ai fait Just Gigolo.
Ah oui, non, mais
et la semaine prochaine, on est dans le cadre d'une blague. Hein. On est dans le cadre d'une blague. La semaine prochaine, je fais Justin Bridou, qui a un podcast sur le jazz et sur la charcuterie.
Non mais j'avoue.
Que... Donc je trouve ça hyper bien. Que alors même qu'il y a trop de jazz partout, qu'on est assailli constamment par le jazz, que t'aies quand même ce courage d'en parler de manière différente. Et pour être un peu plus sérieux et pour parler de la playlist, c'est vrai que ce que j'aime bien dans ton émission, c'est que ta définition du jazz, elle est étonnante. C'est-à-dire que il y a du jazz un peu partout.
Ouais.
Pour les auditeurs modernes qui n'en écoutent pas forcément, puisque bon, c'est pas, on va pas se mentir, on écoute plus de hip-hop aujourd'hui dans le monde que de jazz.
Ouais.
Et toi, t'as un truc que je trouve hyper cool, c'est de dire il y a du jazz un peu dans tous les styles. Donc j'ai essayé de respecter, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait une playlist en essayant de choisir des morceaux qui pourraient définir ce que pourrait être un jazz d'aujourd'hui, enfin de porter ma contribution à ton podcast sur
c'est
ce
gentil.
Point.
C'est très gentil. J'ai noté les noms d'émissions quand même. Le Jazz Timbridou par Jean Fromageau, je pense que
ah bah là, on aura peut-être changé pote, en termes de sponsoring. Ouais. Là, tu peux aller chercher des pré-rolls.
C'est plutôt 19h. On a capté qu'à 19h, c'était l'apéro au Club Med. C'est vraiment très bien réglé.
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut savoir au Club Med, c'est que tu n'as jamais faim.
Hein. Ouais, non.
C'est-à-dire que vraiment, je suis sur un continuum de nourriture qui est ininterrompu. C'est vraiment, je suis...
Bref, parlons musique un petit peu. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Oui. Peut-être en décimloquant le téléphone et en essayant de savoir avec quel premier morceau tu voulais commencer cette émission. Et ouais. Je pense que c'est bien si t'en parles qu'on l'écoute.
J'en parle avant ?
Ouais, t'en parles avant. Ouais, t'en parles avant.
En fait, pour le premier morceau, j'ai voulu faire mon gros malin. Donc
très
j'ai
bien.
Choisi une reprise un peu rigolote et un peu jazzy. Mais qui dit un truc de ce qu'est devenu le jazz. Mais je te propose qu'on investigue ce point après avoir entendu le morceau.
Crâle bâtard.
Ah oui, c'est du teasing, ça. C'est...
I get up. And nothing ever gets me down. You got it tough. Huh. I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real. Oh, can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and jump.
Jump. Hey, you.
Huh. Hey, babe. How you been? You say you don't know. You don't know until you begin. Can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
You might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and just jump.
Jump.
Knock yourself out. Standing here, I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump. Jump, baby.
Jump.
Come on, jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, knock yourself out.
Jump.
Go ahead and jump.
Jump.
Come on and jump.
Jump.
On vient de s'écouter Jump.
De Van Halen.
De Van Halen, mais avec une version, un monsieur qui lui est très jazz pour
le
coup.
Oui, c'est un crooner, Paul Anka, qui est très connu. Il y a quelques années, il a fait cet album de reprise. Et donc, c'est que des standards qui n'ont rien à voir avec la musique de big band ou le jazz. Donc, plutôt de la musique, là en l'occurrence, c'est plutôt associé à l'Olympique de Marseille, hein, Jump. Donc, on est a priori, on n'est pas trop dans l'univers feutré du jazz, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, moi j'aime bien les reprises marrantes comme ça. Pourquoi je voulais commencer avec ce morceau, c'est que, en fait, ce que j'adore dans ton podcast, c'est qu'on se demande ce que c'est le jazz. Alors, bon, j'ai fait mes devoirs.
Oui.
Et je me suis dit, c'est quoi la définition du jazz ? Alors, t'as des gars qui disent, je dis des gars parce qu'en fait, souvent, c'est des mecs. Hein.
Ouais, c'est beaucoup de mecs. Ouais. C'est bien le problème.
C'est quoi le jazz ? C'est genre, il faut qu'il y ait un peu de swing, un peu d'improvisation et un peu de tonalité un peu bluesy. En tout cas, je suis tombé souvent sur cette définition. Et en fait, elle est à chier parce que, en fait, si t'appliques cette définition, ça veut dire que ce qu'on vient d'écouter, c'est cool, c'est du jazz. En fait, ce qu'on vient d'écouter, le morceau, il est rigolo, mais en fait, il échoue. Parce que ce qui reste du jazz, c'est une parodie.
Ouais.
Et c'est ça le problème, et c'est ça qui fait que ton podcast est utile et intéressant, c'est que le jazz comme style a eu tendance à se parodier, à devenir un truc rigolo, un truc pour les vieux, et les jeunes se sont détournés de cette musique parce qu'à un moment aussi, le milieu est devenu un peu sclérosé, et pour moi, ce morceau, il symbolise ça, c'est-à-dire que si t'appliques une formule, même Van Halen, ça devient du jazz.
Ouais.
Donc en fait, c'est juste rien, c'est la définition qui va pas. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis dans tes émissions, quand tu dis que, tu me corriges si je me trompe, que le jazz, c'est un mood, que c'est une façon de voir la musique, c'est peut-être un moment parfois de la vie, bref.
Ouais.
Et pour moi, quand on reste sur une définition un peu fossilisée du jazz, on manque, mais vraiment, ce que tous les grands génies du jazz, comme Miles Davis ou d'autres, dont on parlera, voulaient faire. Ils ne voulaient pas du tout que ce soit un truc sclérosé. Ils ne voulaient pas du tout que ce soit une formule, un gimmick.
Ouais.
C'est une musique vivante, expérimentale, une musique... Et un point très important, et qu'on en reparlera aussi sur certains autres morceaux, pour moi, mais un truc qui s'est perdu et qui est fondamental, c'est que le jazz, c'était une musique qui faisait peur. C'était une musique novatrice, violente, faite par des Noirs, qui faisait peur aux Blancs. Et quand on pense jazz aujourd'hui, on a toutes sortes de clichés qui sont l'opposé de ça, en fait. Mais retrouver le jazz dans la musique d'aujourd'hui, c'est pour moi retrouver un truc innovant, potentiellement violent, qui fout les jetons, qui bouscule les conventions, et pas du tout justement un truc conventionnel comme on vient d'écouter.
Très
c'était
bien.
Long, hein.
C'était long.
Oui.
Non, mais je sais pas si on peut dire que c'était long. Après, c'est vrai que c'est... Si, c'était long, quand même. Non, 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 mais c'était bien dit. Pour le coup, je suis un peu d'accord avec toi sur pas mal de points. Et j'ai peur que malheureusement le jazz ne fasse plus trop peur. Ça, c'est un truc, j'ai l'impression qu'il fera plus trop flipper. Mais,
ouais, en mais tout cas, c'est pour ça qu'il faut le trouver dans d'autres styles, à mon avis.
Et ça fait partie des trucs, en tout cas, que nous, on peut vivre aujourd'hui en étant avec les générations qui se croisent. On peut côtoyer des gens qui se sont construits en opposition à ce style.
Oui.
Genre, par exemple, un mec avec qui tu as déjà dû bosser, avec qui j'ai jamais pu avoir d'émission avec lui, c'est Didier Varro, donc directeur de la musique chez
Radio France. Ouais, non, j'ai jamais bossé avec lui, mais bon, le gars est une légende.
Voilà, exactement. Et lui, il m'a toujours dit, je ne viendrai pas, parce que maintenant il s'est détendu, mais j'aurais m'a dit, en fait, je me suis construit en opposition totale au jazz, parce que c'est ce qu'écoutaient mes darons, et je voulais pas ça. Et donc, c'est. Mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on est des générations qui se construisent en opposition avec un style.
Mais non, mais parce que déjà, le panorama de la musique a totalement changé. Aujourd'hui, les jeunes, je dis les jeunes parce que je le suis plus.
Je l'ai plus, ouais, voilà.
Les jeunes se construisent dans leur chambre avec leur smartphone, ils se font des playlists qui mélangent tous les styles. La notion de scène a totalement disparu. Comme elle existait dans les années 70 ou 80, donc la situation n'est plus du tout la même. C'est vrai que tu peux clairement, en plus, les parents milléniaux des enfants jeunes d'aujourd'hui se sont déjà construits post-Napster, génération iPod et tout. Donc en fait, effectivement, j'ai du mal à imaginer un gosse de 10-15 ans se construire contre le fait que son père écoute Daft Punk, et en même temps, ce serait marrant.
Ouais, parce qu'il écoutera sûrement Kanye West qui a samplé Daft Punk Youth, donc voilà.
Ouais, tout à fait.
Ou Kanye même, c'est comme ça qu'on dit, je crois.
Oui, je crois qu'on dit Kanye.
Ouais, bon, on le dit plus trop parce qu'il a fait des conneries. Ah, oui, mais oui. Par contre, il a une place un peu dans ta playlist parce que c'est une.
En fait, moi, Kanye West, il faut tout de suite dire que je parle pas du Kanye West fou d'aujourd'hui, qui est aujourd'hui devenu une créature de télé-réalité bizarroïde, qui est plus intéressante musicalement. Pour moi, c'est un génie jusqu'à à peu près Yeezus, qui est mon album préféré. Donc Yeezus, ça fait 10 ans déjà. The Life of Pablo, après, déjà, pour moi, ça descend un petit peu, mais ça reste intéressant. Et après, c'est n'importe quoi, je retiens quasiment rien, perso. Mais il se trouve qu'on n'en aura rien à foutre dans 50 ans des frasques de télé-réalité de Kanye. C'est un génie absolu de la production. Il a révolutionné le son. En fait, on vit dans le son, une grande partie de la musique commerciale d'aujourd'hui. C'est sa vision d'il y a 10 ans, 15 ans. C'est quelqu'un de fondamental pour la musique d'aujourd'hui. Parce que, justement, et là, je reviens sur le jazz. Pour moi, il est au niveau d'un Miles Davis ou de gens comme ça, de Coltrane. Pourquoi ? Parce que c'est un visionnaire. Il a touché à tous les styles. Il a bossé avec tout le monde, du gospel à la musique traditionnelle, en passant par l'électro, tout ce que tu veux. Comme Miles Davis, en fait, il prend dans l'esprit du temps des éléments qui vont nourrir sa créativité, sa folie. Et il y a un truc qui est très intéressant chez lui, c'est qu'aujourd'hui, certes, il est devenu une joke, et il est indéfendable, notamment politiquement, bien entendu, puis je pense qu'il est malade aussi, tout simplement. Il a des troubles mentaux, tout simplement. Mais c'est un artiste qui, avant ses frasques, faisait peur. Il me fait penser à Coltrane, il me fait penser à Miles Davis, qui était détesté par l'establishment, parce que ça partait dans tous les sens, parce qu'il y avait d'expérimentation, des revendications politiques. Il faut se souvenir que Miles Davis, il disait qu'il faisait la musique pour les Noirs, pas pour les Blancs. Et je vois ça dans Kanye, je vois cette violence, et notamment dans le morceau que j'ai choisi, donc qui est extrait de Yeezus, et qui est un morceau, pour moi, qui condense un peu tout ça.
Et qui est On-Site.
Qui est On-Site, voilà. Qui est le premier morceau de Yeezus, je crois que c'est en 2013, un truc comme ça.
Yeezy season approaching, fuck whatever y'all been hearing. Fuck whatever y'all been wearing. A monster about to come alive again. Soon as I pull up and park the Benz, we get this bitch shaking like Parkinson's. Take my number and lock it in. Indian hair, no moccasins. It's too many hoes in this house of sin. Real nigga back in the house again. Black Timbs all on your couch again. Black dick all on your spouse again. And I know she like chocolate men. She got more niggas off than Cochran, huh? On sight. On sight. How much do I not give a fuck? Let me show you right now before you give it up. How much do I not give a fuck? Let me show you right now before you give it up.
I'll give up. Baby girl try and get a nut, and a girl try and give it up. Chop them both down, don't judge them, Joe Brown. One last announcement, no sports ball, let's keep it bouncing. Everybody wanna live at the top of the mountain. Took her to the blue, she tried to sip the fountain. That's when David Gruttman kicked the air, but I got her back in and put my dick in her mouth. On sight, on sight. Right now, I need you right now. Right now, I need you right now. Right now, I need you right now.
Kanye West sur la Tsugi Radio, parce que vous êtes peut-être... quelle heure ? On a commencé là, il est 11h30, on a commencé à 11h30, vous êtes samedi matin, c'est le moment où vous avez lancé l'émission, vous vous êtes dit « Ah tiens, il faut que je passe la spice ou dans la salle à manger. »
Ah bon ? Mais je savais pas que j'avais cette voix.
Tu l'as maintenant, dorénavant. Parce qu'il faut savoir que les gens nous écoutent quand ils font leur ménage dans Jazz Auto. Ah. J'ai fait un sondage une fois, okay. J'aurais dit dans quelles conditions vous écoutez cette émission.
Ben, on salue le robot Roomba. En train de...
Et je t'avoue que tout le monde m'a dit bah, « Moi, je fais mon ménage. » Mais c'est ma mère... Écoute, ma mère fait le ménage globalement tout le temps, donc ça c'est pas un bon référentiel, mais souvent.
Elle passe derrière toi peut-être.
Alors non, parce que ça y est, je suis quand même bien, j'ai bien grandi.
T'es déconstruit.
Ouais, je suis déconstruit par rapport à tout
okay,
ça.
Ok, cool. Ça, voilà. J'ai eu peur.
Donc peut-être que ma mère n'a pas accroché avec ce morceau qu'on vient d'écouter On Site.
C'est vrai que
sur Tsugi Radio, oui, il est un peu clivant. Et on écoute toujours Jazz the Two of Us avec mon invité de la semaine, Jocelyn Bordin. On va revenir peut-être après sur le cadre dans lequel on se situe. Mais on n'est pas toujours obligé de parler de cadre.
Ouais. Hein,
on va casser, on va briser.
Mais les cadres sont faits pour encadrer déjà.
Ouais.
Alors peut-être parlons de peinture.
Laissons-les au mur. Qu'est-ce qu'on écoute après ? Un artiste dont je n'ai jamais su prononcer le nom du premier coup.
Ah oui, c'est un artiste incroyable qui est assez peu connu et qui a plein de facettes, qui s'appelle One No Tricks Point Never. Ouais. C'est imbitable. En fait, ça vient, je crois, d'une radio de son enfance. 107 Point quelque chose. Son vrai nom, c'est Daniel Lopatin. On en parle tout de suite ou on en parle après ?
On en parle tout de suite.
Ok. Donc, sous le blaze de One No Tricks Point Never, il fait une musique expérimentale complètement bizarroïde, passionnante. Il a fait une dizaine d'albums. Je dirais que c'est de l'ambiante un peu postmoderne, mais là, vraiment, je serais très prétentieux. Hein,
n'est-ce pas ? Non, tu n'es pas très prétentieux, ça va.
C'est-à-dire, c'est de l'ambiante avec des éléments de samples numériques cassés. Il faut imaginer du Brian Eno, mais passé dans un mauvais lecteur MP3, un truc comme ça. Et c'est un artiste absolument fascinant parce qu'il a trois facettes. Donc, il a ce nom d'artiste, One No Tricks Point Never. Mais sous le nom de Daniel Lopatin, qui est son vrai nom, il fait également des bandes-sons incroyables. Il a fait la bande-son, par exemple, du film des Safdie Brothers qui s'appelle Uncut Gems sur Netflix, qui est un film incroyable. Et sa BO, elle, ça n'a rien à voir. C'est un peu du Vangelis revisité, chelou, avec du saxo. Donc, il fait des BO comme ça. Et en fait, le grand public le connaît sous une autre identité, mais sans le savoir, parce que ce même mec qui fait les trucs les plus pointus, la musique parfois difficilement audible, il est aussi le producteur de The Weeknd sur tout le dernier album. Parce qu'il a une facette, c'est un des pionniers de la synthwave, c'est un maître des synthés, il a toute une collection de synthés chez lui. Donc ce gars-là me passionne absolument parce que c'est quelqu'un qui est à la fois dans l'underground le plus pointu et dans le truc le plus commercial possible, que moi, par ailleurs, j'adore, j'aime beaucoup The Weeknd. Et donc tout Dawn FM est produit par le même mec.
The Weeknd qui est actuellement... depuis qu'il s'est tiré la bourre pendant quelques mois là, avec Taylor Swift, mais c'est l'artiste le plus écouté dans le monde tous les mois.
Ouais, et je suis fasciné.
Numéro 1 sur Spotify, je sais pas combien de millions de personnes.
Je suis fasciné que le même producteur fasse la chose la plus écoutée et la chose la moins écoutée.
Eh ben écoutons, nous, la moins écoutée.
Thank you.
One Trick Pony Never.
Eh oui, bah,
je
oui.
l'ai dit très vite, je l'ai peut-être écorché un peu le pépère.
Ouais, la musique ressemble au nom d'une certaine manière, c'est que tu comprends pas trop ce qui se passe. Au début, tu crois que t'es dans un film effectivement à la Tron, et puis tout d'un coup, il y a les choristes qui arrivent, mais clairement, c'est sur un CD qui joue mal, et puis ça finit par c'est de la Dream, tout est mélangé. C'est fascinant et ça me fait penser aux expérimentations jazz des années 70. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour moi, c'est ce que les pionniers du jazz feraient aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils prendraient des éléments de la musique d'aujourd'hui, des 20 dernières années. Ça ressemble des fois, de la musique de Windows. Ils prendraient ces éléments-là pour en faire quelque chose. Ils les mélangeraient et c'est ce que fait ce gars-là. Pour moi, selon la définition Jean Fromagienne, du coup, c'est complètement du jazz. Je dirais que c'est 100% du jazz.
Oui, elle a été déposée, en première année de l'Empire Fromage, qui n'a pas duré très longtemps. Hein. Ouais, fondu comme neige au soleil. Alors, on parlait de Miles Davis tout à l'heure. Je crois que tu as à peu près cité ce mec 45 fois en moins de 10 minutes.
Bah oui, je sais que
c'est un record que tu essayes de faire.
Tu veux pas qu'on parle de Miles Davis dans Jazz The Two of Us?
Bah non, mais c'est pas ça, c'est comme j'arrive pas à la voir. J'ai le seum. Non, mais ouais. On parlait de lui, c'est vrai. Alors je dis ça parce que c'est ce que je dis souvent. Je dis si tu viens et que. Ce que je veux pas dans l'émission, mais en même temps, c'est trop dire, c'est que tu me ramènes que des Kind of Blue et des trucs comme ça.
Ouais.
En disant j'écoute ça. Et si c'est juste ça et qu'il n'y a pas d'histoire derrière, si t'as pas ta petite accroche, bah je m'en fous en fait que t'écoutes du Miles Davis. J'espère que c'est bien, mais allons chercher autre chose. Et c'est peut-être cool de se dire que on découvre Miles Davis après avoir découvert les Pink Floyd. Pour moi, c'est ça le jazz.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que je n'ai pas de travail dans le jazz. Parce que chaque fois que je parle à quelqu'un du jazz, il me dit mais ferme ta gueule et sors de cette pièce.
Bah par exemple, je sais que les mecs de Justin Bridoux
te
détestent.
Mais ça, c'est un autre problème. C'est qu'on est, on a le même. Enfin, c'est. Bon, écoute, c'est le partenariat avec le Club Med qui fait que.
Ouais.
Qu'on se hait.
Ouais.
Mais donc, Miles Davis, tu n'as pas choisi d'exemple de son album Zouk, dont tu ignorais l'existence.
Ouais, tu m'as fait découvrir. Alors, tu m'as dit, Miles Davis, il a un album Zouk, et je ne savais pas. En fait, ce n'est pas vraiment qu'il a un album Zouk. Il y a un album de la fin des années 80, effectivement, qui s'appelle Almandra, ou je ne sais plus.
Exactement.
Quoi. Alors, c'est pas vraiment que c'est du zouk, mais ça incorpore des éléments de musique africaine ou caribéenne avec beaucoup d'électronique. Ça a très mal vieilli, honnêtement.
C'est atrocissime.
Et tu m'as appris un truc, effectivement, que j'ignorais totalement. C'est qu'à l'époque de cet album, il était fan de Kassav. Genre, Miles Davis, il disait, ouais, putain, le futur de la musique, c'est Kassav.
Bah, écoute, je crois que la semaine prochaine, je reçois Ambre Larazé, et qui est aussi fan de Kassav, donc peut-être que c'est peut-être Miles Davis actuellement. Peut-être qu'il y a des choses, voilà. Rien à voir, mais on en parlera peut-être à la fin parce que c'est aussi une émission qu'on enregistrera ici. Bref, on s'en fout. Miles Davis, donc pas du Zouk, c'est un autre album que tu as choisi et c'est d'autres morceaux peut-être. De quoi tu veux qu'on parle?
Ouais, en fait, ça va rejoindre un petit peu ce que tu disais sur Varro. Moi, j'avais 15 ans en 1995, donc c'est un paysage qui n'a rien à voir en termes de musique. J'habitais dans une petite ville, il y avait un marchand de disques, il y avait quelques CD. Les CD venaient d'arriver, tu vois. Donc mon père achetait des CD, il avait beaucoup de vinyles. Et mon père a toujours écouté beaucoup de jazz. Et moi, à l'époque, évidemment, je me construisais un peu en opposition, donc ça me faisait chier ces trucs de jazz. Donc j'écoutais Iron Maiden, des trucs comme ça, très heavy metal, du grunge, beaucoup. Et à un moment, il m'a fait découvrir un certain nombre d'albums de Miles Davis, Beaches Brew, In a Silent Way, Fille de Kilimanjaro. Enfin, disons la période fascinante de Miles Davis. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, une des plus fascinantes, c'est le moment où Miles Davis fait un jazz qui choque la communauté de jazz. C'est-à-dire qu'il se met à faire du jazz funk, du jazz rock, à intégrer des éléments des instruments électriques. Il faut imaginer quand même que quand Miles Davis abandonne la contrebasse, t'as des mecs des puristes dans les journaux qui disent « C'est un scandale, il y a de la basse électrique !» Et Miles Davis, lui, évidemment, le génie qu'il est, il faisait la musique dedans 50 ans. Mais ce qui me fascinait, en fait, quand mon père m'a fait découvrir ça, c'est que je me suis rendu compte que je savais pas ce que c'était le jazz. Je pensais que c'était le bebop un peu relou ou qui me parle pas du tout. Et avec Miles Davis, ce que j'ai découvert, c'est plein de trucs. C'est que j'ai découvert des instruments le Rhodes, les synthés Moog qui m'ont traumatisé jusqu'à encore aujourd'hui. Et en plus, tu avais les vinyles, tu pouvais regarder qui jouait, tu voyais, ah putain, c'est qui Herbie Hancock, c'est qui Chick Corea.
Ouais, c'est ça, c'est, ouais. c'est que les Avengers derrière.
Ouais, ça faisait un peu encyclopédie, tu vois. Ouais. Tu ouvrais Beaches Brew, puis tu avais des noms de synthés, tu savais pas ce que c'était. Mon père écoutait aussi Weather Report, ce genre de trucs. Donc en fait, pour moi, pour pas être trop long, Miles Davis, ça a été un moment qui m'a permis de découvrir qu'il y avait. Certes, du jazz intéressant, mais surtout, ça m'a fait découvrir d'autres styles. C'est-à-dire que ça m'a fait découvrir Herbie Hancock, puis après des trucs funk, disco. Et en fait, je suis passé assez rapidement par Miles Davis. Et ce qui m'intéressait dans Miles Davis, c'était les trucs qui ressemblaient pas à du jazz, parce qu'en fait, je cherchais autre chose, je me cherchais, tu vois. Mais ça a été hyper important pour moi, et sans doute pour les auditeurs, ils sont hyper contents. Ils me connaissent pas, ils se disent, putain, ça a été hyper important pour Josla à un moment dans sa vie. Ça m'a servi, en fait, de passerelle vers d'autres trucs. Ouais. C'est-à-dire que grâce à Miles Davis, j'ai pu écouter Sinclair.
Et ça, c'est magnifique. Allez, on sort d'écouter un peu. Enfin, on écoute tout court. Qu'est-ce qu'on écoute, d'ailleurs ?
On écoute Shout sur l'album The Man with the Horn.
Vous êtes de retour sur Jazz de Two of Us. Vous êtes même de retour sur la Tsugi Radio en vrai. Dans une émission qui vous accompagne tous les samedis. On a muté Saint-Pierre. J'ai dit ça avec un dédain. Je suis dégoûté.
Je l'ai pris pour moi. je suis dévasté.
Je me fais chier. J'en peux plus de cette émission. Ouais, sortez-moi. Ouais. J'ai un contrat avec Universal pour encore 10 ans.
Ah ouais, merde.
C'est fatigant.
Ah ouais, il y a du merch en plus.
Il y a du merch.
Il y a les mugs, Jean Fromageau qui arrivent.
Il y a les couteaux à fromage. Ouais, ça, c'était mon idée. C'est les petits, avec des petites notes de musique dessus pour découper.
Pas mal.
Voilà. Et on vient de s'écouter Miles Davis. Donc ça, en l'occurrence, bon, normalement, ça ne vous choque pas trop, moins que les trucs d'avant. Et c'est ton choix, Jocelyn.
Alors après, on écoute un artiste qui est revenu récemment avec un album de jazz.
Mais non.
Et qui est un album absolument ridicule. C'est donc André 3000 qui est revenu avec une espèce d'horreur de trucs à la flûte. On croirait du Pharoah Sanders, mais genre fait 70 ans trop tard.
Ouais.
Il est revenu non seulement avec ça, mais avec un discours. En fait, le discours remplace la musique. Il a fait des grosses télés et tout. Pour moi, l'album est totalement n'a absolument aucun intérêt. Mais par contre, il a brodé avec tout. C'est le vide absolu. Alors que ce mec a été un génie total. Il a été un génie total, surtout au moment du double album. L'album où il y avait donc un par Big Boy et un par André 3000, ça fait déjà 20 ans. Et à cette époque, il n'avait pas besoin de faire des télés pour dire qu'il faisait du jazz ou qu'il était intéressant et qu'il avait un instrument inconnu. À l'époque, c'était une sorte de Prince moderne. Il mélangeait tout. Il faisait des intros de jazz mélangés avec des éléments pop, du funk, du hip-hop. Tout était. Et c'est un moment où il était extraordinaire. Et ça m'a donné envie qu'il fasse un si mauvais album. Ça m'a donné. Et si ridicule dans la démarche pour moi. Que ça m'a donné envie de réécouter un chef-d'œuvre à lui, qui est donc l'intro de The Love Below, il y a 20 ans. Et qui est un morceau où il y a énormément d'éléments de jazz mélangés avec d'autres choses. Everybody needs a glass of water today to chase the hate away. You know you've got company coming over, so you scrub extra hard. To rub their shoulders and scratch their dandruff, and everybody need to quit acting hard and shit before you get your ass whooped. Slap the fuck out, jerk. Everybody needs somebody to love before it's too late. It's too late.
Sur la Tsugi Radio, merci. J'avoue, ça jazz.
Là, clairement, on était à deux doigts de snapper.
On peut snapper si tu veux, je la rajouterai en post-prod.
Je snapperai si je veux.
Voilà, exactement. Alors, juste après, c'est deux petits virtuoses, enfin trois, parce qu'il y en a un qui est à la base derrière qui s'est rajouté sur le morceau, c'est Thundercat, et qui accompagne Domi et J.D. Beck. Qu'est-ce qu'on en pense de Domi et J.D. Beck ?
Ben en fait, je te dois de les avoir découverts. C'est-à-dire que comme je savais que je faisais cette émission, j'ai regardé un peu ce qui sortait en jazz très récemment. Je les connaissais pas, j'avoue. En fait, j'avais remarqué qu'il y avait une nouvelle tendance un peu jazz du passé. Comment elle s'appelle ? Leivé, des gens comme ça, c'est ça ?
Ouais, ça, Leivé.
Ou Samara Jones. Donc en gros, Samara Joy. Des artistes en fait qui séduisent les zoomers sur TikTok, c'est-à-dire qu'il y a tout un retour du jazz, paraît-il, sur TikTok. Moi, j'en vois passer tout le temps. Mais c'est justement, pour faire le lien avec ce qu'on disait au début, pour moi, c'est un jazz un peu stéréotypique. Souvent, c'est fait pour vendre de la déco et tout. Et c'est décoratif, en fait.
Ouais, et après, il y a aussi un truc où, bon, ces artistes-là, c'est les premiers albums. Bon, Samara Joy.
Oui, ils font un peu leur premier album, comme Amy Winehouse avait fait un premier album de jazz lounge un peu relou.
Et... à voir comment ça évolue.
Tu as raison, il faut leur souhaiter que. Mais en fait, je suis tombé sur plein d'articles comme quoi il y a le retour du jazz. Non, il y a le retour d'une forme un peu cliché d'un jazz qui, moi, personnellement, ne m'intéresse pas trop. Mais du coup, en lisant, je tombe sur ce duo trop bizarre, qui font une musique qui n'est pas révolutionnaire. Je dirais que, en fait, ce qui est fou, c'est la gueule qu'ils ont et c'est. C'est le packaging en fait qui est incroyable, c'est-à-dire que c'est des musiciens extraordinaires. D'ailleurs, ils jouent avec Thundercat, qui est un bassiste fou aussi. Sur leur album, il y a 1000 featuring. Et ce qui est fascinant avec eux, et ça dit quelque chose de comment faire du jazz aujourd'hui, c'est que il y a 20 ans, ils auraient fait du jazz normal. Peut-être la pianiste, elle aurait peut-être pas été lookée comme ça. Aujourd'hui, en fait, la coolitude vient du fait qu'ils sont ironiques. C'est-à-dire, enfin, c'est comme ça que je les perçois en tout cas. C'est-à-dire que c'est du jazz avec des. Ça reste tonal, mais tu as des placements rythmiques de ouf. C'est virtuose. Il y a une certaine forme de virtuosité, mais qui n'est pas ringarde parce qu'ils ont les bons codes en termes de paroles. Ça dit couille toutes les 3 secondes.
Ah, ça, c'est bien.
Ouais, ouais. Et donc, en fait, ils ont trouvé une formule qui est très intéressante. C'est de faire du jazz de virtuose, mais en disant pipi caca couille.
Et ils ont 16 ans, quoi, aussi.
Et également, ils sont très jeunes. Ouais. Et ils sont le symbole, pour moi aussi, d'un truc que j'ai remarqué depuis longtemps sur TikTok, parce que j'y passe un peu trop de temps, c'est que moi, quand j'étais jeune musicien, la virtuosité, c'était l'ennemi. Les virtuoses, c'était ceux qui se la pétaient. On détestait les jazzeux pour ça. Aujourd'hui, la virtuosité revient d'une autre manière sur TikTok. C'est qu'il y a énormément de musiciens incroyables qui se filment chez eux, qui ne sont pas du tout connus, qui ont un niveau de ouf. Et là, en fait, la virtuosité revient par les réseaux sociaux, par ces petites vidéos que chacun fait, et elle est redevenue cool d'une certaine manière. Tu vois, on peut penser à Vulfpeck, des groupes comme ça qui sont. Tu vois, il y a plein de vidéos de genre on joue tight, on joue funk. C'est un truc qui me fascine beaucoup et qui est très effrayant aussi parce que le niveau de ces jeunes est absolument fou.
J.D. Beck et vous êtes toujours en compagnie de Jean Fromageau dans Jazz de Two of Us, un podcast. Clairement, oui, un jeu de mots dans le nom du podcast, c'est sûr.
C'est vrai que peu de gens le reconnaissent. Je dois reconnaître, toi, je plie mes jambes quand je te dis ça, donc c'est vraiment qu'on arrive à la moitié de l'émission.
Mais tu disais que tu as trouvé le nom de l'émission au terme d'un stage d'écriture de combien de mois déjà?
Je sais pas, c'était plutôt, ouais, je suis resté enfermé avec des auteurs, c'était quoi, c'était dans une petite maison en Bretagne, on est parti 2019,
ouais.
Et on n'a pas pu rentrer tout de suite parce qu'il y a eu le confinement, donc on est rentré
à sacrée histoire
Paris.
Ce confinement, hein.
Ouais,
c'était un sacré truc.
Ça, c'était
hein.
Un truc,
pas de jazz
prêt.
Du tout.
Non, pas de jazz, on n'était pas prêt. Donc je pense que je suis revenu avec le nom ouais, en septembre 2020, je pense. Donc ça a processé, ouais, 6-8 mois, un peu de trucs comme ça.
Bah, y a des trucs, faut prendre le temps.
Ouais, faut prendre le temps. Mm. Et j'en suis content.
Tu vois, je parlais de ça avec les mecs de Jazz to Gigolo. Mm.
C'était beaucoup plus...
Ouais, ça a été plus... Voilà, après, c'est un podcast sur le jazz et les travailleurs du sexe. Donc c'est différent, c'est pas le...
Ouais.
Voilà.
Ouais, voilà. C'est plutôt... Enfin, je pense qu'ils d'ailleurs, ils sont bien devant moi sur les écoutes. Mais bon, c'est le jeu. Qu'est-ce qu'on s'écoute ensuite? On peut peut-être rappeler quand même... Parce que là, on déconne. Mais pourquoi est-ce qu'on déconne?
Parce qu'on
a eu le temps de tailler le bout de gras depuis quelques jours. Parce qu'on je rappelle quand même qu'on enregistre cette émission. Si vous prenez le truc en cours sur Tsugi Radio, actuellement, vous écoutez une émission qui est en partenariat. Mm-hmm. Ou en tout cas, on nous a filé un petit oreiller dans une chambre d'hôtel.
Ça fait une semaine qu'on est comme des rois à la rosière,
voilà.
Avec une vue à 360.
On n'a pas bu de rosé d'ailleurs.
Non, mais en revanche, moi, je dois dire que je suis constitué désormais de à peu près 88% de fromage. Là, c'est vraiment, ça fait une semaine qu'on est là, il n'y a plus... Voilà.
Donc oui, on est invité par le Club Med pour faire tout ça, et notamment un des aspects du Club Med. Moi, j'en ai déjà parlé au début de l'émission, mais c'est le Club Med Live, donc ça fait de la musique et tout. Et donc, on les remercie.
Oui, on les
remercie. Pour l'assise, pour les petites douches, pour la pistoche à 9h du matin quand même.
Ouais.
Et voilà. Qu'est-ce qu'on s'écoute si on ne va pas à la pistoche?
On s'écoute un compositeur qui n'est pas forcément connu du grand public, pardon, mais qui compose pour Jordan Peele. Alors Jordan Peele, c'est le mec qui fait Get Out, Us, plus récemment Nope, que je considère vraiment comme un chef-d'œuvre. Alors voilà, je l'ai dit, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais, tu peux le dire, je le comprends.
Les gens savent désormais que moi, Jocelyn Borda, je considère que ce film est un chef-d'œuvre, n'est-ce pas?
Et que Miles Davis a changé ta vie à un moment donné.
Voilà, c'est ça.
Tu fais deux infos.
Et en fait, Jordan Peele, il a travaillé très tôt avec un type qui s'appelle Michael Abels, qui est un compositeur américain qui vient du gospel, du jazz et de la musique orchestrale. Il l'a essayé sur Get Out et il a fait une BO géniale sur Get Out. Ça revisite un peu du Bernard Herrmann avec des cordes très bizarroïdes, mais avec d'autres éléments africains, des éléments de hip-hop, un peu tout mélangé, beaucoup de chœurs un peu limite chaussée aux moines, tu vois. Donc un mélange très particulier qui, il se trouve, marche de manière hallucinante sur les trouvailles de Jordan Peele en termes de cinéma. Et Steven Spielberg lui a dit genre, ah mais non, mais t'as trouvé ton compositeur, faut que tu fasses comme moi et John Williams. Donc depuis Get Out, il bosse que avec ce mec là et là j'ai pris un extrait de la BO de Us, qui est son deuxième film, qui est pas mon préféré, mais il y a une séquence incroyable où les personnages marchent sur la plage, et quand j'étais au cinéma, j'entends cette musique et je savais pas ce que c'était. C'est très court et je trouve ça extraordinaire. C'est du jazz, c'est de la musique tribale, c'est des chants grégoriens, tu sais pas, et c'est hallucinant. Thank you.
Bushwalk.
Oui.
Sont pas fait chier du coup pour le nom du.
Non.
Parce que
non.
C'est, tu l'as dit au début, en lancement, que c'était oui. La séquence où ça marchait sur la plage.
Oui, oui, oui. Mais il s'est fait chier par contre sur les sonorités. C'est trop bizarre. Il y a un moment, dans le rythme, j'ai l'impression qu'il y a de la kalimba ou un instrument africain percussif, mais qui fait aussi des notes. Enfin, je sais pas, ce truc m'a vraiment frappé au ciné. Et là, de le réécouter, j'ai des frissons.
C'est bien.
Des frissons.
Tu as des frissons parce qu'on est bien installé. Aussi, ça joue. Qu'est-ce qu'on s'écoute ? Tony Williams, ouais. Après. Touch Me.
Tony Williams, dans les podcasts, c'est vrai que c'est rare de parler de soi. C'est vraiment rare de tomber sur un podcast où les gens parlent d'eux, hein, c'est vrai.
C'est assez rare.
Mais moi, je suis prêt à briser ce tabou et à parler un petit peu de moi.
Allez, vas-y.
Il se trouve que...
Mon safe place.
Moi, je fais beaucoup de musique, je fais beaucoup de génériques, je joue un peu de tous les instruments. Voilà, je joue un petit peu de tous les instruments. Je suis ce qu'on appelle un multi-instrumentiste. Mais au départ, je suis batteur. Et j'ai commencé tout petit. Et mon père m'a fait découvrir très tôt Tony Williams, qui est un batteur extraordinaire, qui a joué, alors je vais encore citer Miles Davis, mais il a joué avec tout le monde, il est sur les plus gros albums de Miles Davis, batteur extraordinaire. Et donc là, j'ai mis un morceau où c'est vraiment, il n'y a que de la batterie. Et bon, voilà, donc on va faire du clic, mon pote, avec ça. Et alors Tony Williams, j'ai une anecdote quand même autour de lui, c'est que mon père m'amenait à Rouen, parce que je suis de Normandie, voir des concerts dans une asso de jazz qui s'appelle peut-être toujours Rouen Jazz Action. Et un jour, il m'a emmené voir, je devais avoir 12-13 ans, il m'a emmené voir Tony Williams. Je pense que j'étais plus jeune, je pense même. Et donc j'ai halluciné parce que un truc qu'on oublie aussi tout le temps sur le jazz, c'est pas du tout une musique de gentil, hein. C'est pas du tout une musique feutrée. Très souvent, c'est violent. Et Tony Williams, en concert, mais c'est d'une violence. Il casse 5 jeux de baguettes qui sont des rondins de ouf. Et j'étais fasciné par son jeu, par la puissance. Elvin Jones aussi était un batteur ultra violent. Les batteurs de jazz, souvent, sont ceux qui tapent le plus fort. Et j'étais tellement fasciné que mon père m'a amené sur scène après. Il était trop sympa. Et il m'a filé ses baguettes. Et je les ai toujours chez moi. Voilà, j'ai les baguettes de Tony Williams chez moi, qui sont des rondins incroyables, avec des. Il y a encore les entailles de sa caisse claire dessus.
Incroyable.
Voilà. Et ce morceau, ça me fait penser à ça.
Tony Williams sur la Tsugi Radio, que j'ai déjà vu, évidemment.
Ah, tu l'as vu en concert ?
Je l'ai vu en concert à Ronnie Scott, en Angleterre.
Ah, donc en fait, ton anecdote, elle est un peu plus stylée que la mienne, c'est ça que tu es en train de dire ?
Je suis en train de te dire que je pense que je mens sur mon anecdote, parce que c'est ce que je te disais hors antenne.
Ouais.
Il faut savoir qu'il y a une hors antenne aussi, même au Club Med, il y a une hors antenne. tout est connecté.
Bien sûr.
Les antennes sont connectées, maintenant tout est fou. Et donc en hors antenne, j'ai souvenir d'une fois où j'ai passé un week-end avec mon frère et ma sœur à Londres, ce qui n'arrive quasiment jamais.
Alors attends, est-ce que c'est une anecdote qui est très longue sur l'aspect famille ou pas ?
Non, okay, c'est bon, d'accord. On a évacué le truc. Et mon beau-frère, peut-être un peu de réminiscence, nous offre à distance.
Attends, pardon, il s'appelle comment ton beau-frère ?
Karim.
Ah, d'accord. Ok.
Ce nom, voilà.
Ok.
Si tu le dis à l'envers, c'est.
Rimka de. Ok. Là, mon pote, on est en train de faire du clic.
Ouais.
On est en train de faire du clic.
Non, c'est vrai que ça. Mais en tout cas, il nous a pris 3 places pour le Ronnie Scott. J'étais petit à l'époque, donc je me souviens plus très bien de qui j'allais voir.
Ouais.
Et je venais d'avoir le bac, donc à 17-18 ans.
Trop bien.
ma mémoire est vraiment arrivée à partir de 20 piges. Ouais. Mon cerveau a fini de se faire. Et je crois que c'est Tony Williams. Et j'ai jamais réussi à retrouver. Faudrait que je cherche dans les archives de Ronnie Scott.
Ouais.
Je rechercherai ça quand on aura fini cette émission parce qu'on déborde un peu sur la discussion.
Oui.
Qu'est-ce qu'on s'écoute ensuite, mon cher Jocelyn ? Ah oui, Chassol.
Bah oui, Chassol, c'est un.
On en a parlé hier.
C'est un artiste français qui est souvent associé à toutes les playlists de Jazz Cool parce que c'est un des rares artistes français qui fait de la musique jazz expérimentale cool et qui est consommé par des gens qui sont pas des jazzeux, quoi, en gros. Par ailleurs, c'est un musicien extraordinaire. Moi, je l'ai vu sur scène avec Tellier, avec Phoenix. C'est un pianiste et un joueur de synthé incroyable. Et donc, Chassol, il fait un truc. Il est connu pour ses harmonisations de discours ou de bande-son de sons concrets. Ça peut être des animaux. Moi, c'est un truc qui je trouve ça intéressant, mais ça me touche pas des masses. Je trouve ça beaucoup trop expérimental. J'aime bien l'idée, mais j'en écouterai pas, en gros. Tout ce qu'il fait en termes de en gros, quand c'est pas tonal, ça me fait un peu chier. Mais là, en l'occurrence, ce morceau, c'est un morceau que je trouve magnifique, qui s'appelle Versailles, parce que c'est un morceau, en gros, au début, tu crois que ça va être du R, et puis petit à petit, il y a d'autres harmonies qui arrivent, et justement, à un moment, tu as la note jazz, la septième, sans vouloir être trop technique, mais à un moment, on entend une note jazz dans un autre. Et je trouvais ça intéressant. Et par ailleurs, c'est un morceau qui est marrant parce qu'il s'amuse à faire une mélodie qui est constituée que d'une seule note. C'est un do, 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 do. Et les accords changent autour. Et c'est un truc qu'on retrouve dans le jazz, chez plein de soloistes, de saxo ou de trompette. C'est, en fait, il joue une note et c'est le contexte qui change la note.
Chassol, sur la Tsugi Radio, que vous avez l'habitude d'entendre régulièrement, qui passe souvent. Tu te demandais à quel moment, en antenne, tu me disais à quel moment on écoute vraiment Chassol. C'est, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Si t'es détendu, t'écoutes Chassol, t'es plus détendu. Si t'es stressé.
Bah là, en l'occurrence, le morceau, il est presque ambiant, il est super.
Bon, en l'occurrence, si vous écoutez la Tsugi Radio, vous écoutez deux ans en temps Chassol, qui normalement devrait, j'espère, venir un jour dans cette émission.
Bah oui, parce que c'est quand même un mec incroyable.
Mon invitation. Mec horrible qui fait sécurer ses comptes à l'antenne. J'espère qu'il va venir, ce petit salopard. Herbie Hancock, c'est ton choix d'après tout à l'heure. Waouh, non, mais en tout cas, c'est ton choix d'après.
Ouais, un morceau d'une période qu'on a un peu oublié. C'est sa période un peu coke, disco,
ah oui, c'est vrai.
Synthé. Okay. Et surtout, c'est sa période vocodeur. Ça ressemble à du Daft Punk, c'est très chelou. We'll be right back.
Chaque fois que je désannonce sur Herbie Hancock, je fais la même réflexion, qui est celle que tu as fait tout à l'heure sur Miles Davis, à savoir il y a 50 ans fait, enfin un peu moins, enfin 50 piges,
ouais, si.
Fait la journée de la musique d'aujourd'hui avec la vision et le machin. J'avoue, je trouve que celui qui est le plus actuel d'il y a 50 ans, donc celui qui encore qui correspond le plus, c'est Herbie Hancock. Quand t'écoutes des albums à lui, tu te dis mais ça pourrait avoir été produit il y a 3 semaines à Los Angeles par, par des mecs genre Thundercat ou des trucs comme
exactement.
Ça. Exactement.
Ouais. Ça et... ressemble à du Daft Punk.
C'est ouf.
C'est étonnant.
Ça n'a pas pris une ride. Je sais pas si on utilise. Peut-être que je viens de l'inventer. Je sais pas si c'est officiel.
Je vois pas ce que ça veut dire.
Ça veut dire que ça ne vieillit pas.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Bon, écoute, c'est à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que je voulais dire ? On enchaîne peut-être avec autre chose. Un gogol.
Ah bah dis donc, vous êtes pas gentil vous.
Non, j'avoue que c'est pas très sympa. Chili Gonzalez.
Ah oui, j'aime beaucoup Chili Gonzalez. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de traduire son bouquin. Il a fait un bouquin sur Enya, qui est un peu autobiographique. Enya, la chanteuse, et où il parle un peu de musique. Et pour moi, Gonzalez, c'est le pianiste le plus intéressant des 20 dernières années, en musique, disons, mainstream. Et c'est au fond, c'est un pianiste de jazz. Bien qu'il déteste la virtuosité de jazz, il n'arrête pas de le dire. Mais
il
en fait,
beaucoup de choses, Chili Gonzalez.
Oui, mais en même temps, dans le bouquin que j'ai traduit, parce que je l'ai traduit, c'est moi qui ai traduit le bouquin, ok. Dans le bouquin que j'ai traduit, il dit qu'on se construit en opposition en musique beaucoup, parce qu'on n'aime pas. Bref, moi, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Mais... Et ce que je trouve fascinant chez lui, c'est qu'il il revisite avec ses solo piano, c'est Satie, mais joué par un pianiste de jazz. Et Gogol en particulier, c'est un morceau où il y a ça. Et il y a une autre chose que je te dirai après.
Avec Gogol sur la Tsugi Radio, extrait de son premier album qui s'appelle Solo Piano et qui est sorti sur l'excellent label No Format, oui. Records. Il y a bien un label à retenir, je pense, de ces 20 dernières années, c'est No Format, parce qu'ils ont clairement pris la phrase du cadre. dans le sens où c'est pour moi les premiers qui ont fait un truc de carte d'abonnement au label. Je ne sais pas si tu sais ça.
Ah non, je ne savais pas.
Et en fait, chaque année, ils t'envoient un mail, si tu as déjà été abonné, en mode est-ce que vous voulez être abonné à notre label ?
Ah, c'est comme une box d'escapades gourmandes, mais escapades jazz.
Mais pas que, parce qu'ils ont fait plein de trucs, ils ont signé beaucoup d'artistes, beaucoup de plein de pays différents. On ne peut pas utiliser le terme musique du monde parce que c'est vraiment de la merde, ce terme-là, mais en l'occurrence, si on devait l'utiliser, on le mettrait sur cette. Voilà.
Okay.
Et donc, tu as la carte membre pendant un an et tu peux soit recevoir des places de concert, soit moi je sais que j'ai un artwork dédicacé parce que j'avais été abonné pour Noël. C'est une super. Comment on appelle ça ? C'est un super cadeau de Noël.
Trop bien.
Le Passe nos formats. Et tu reçois les vinyles à la maison. Donc voilà. Je voulais leur faire un petit clin d'œil parce que on n'en parle pas assez de travail.
Est-ce que c'est sponsor ou pas ?
Pas du tout. C'est sponsor par Club Benanto.
Et d'ailleurs, à propos de sponsor, ce qui est marrant avec le morceau qu'on vient d'écouter, oui. et Gonzalez l'évoque dans le livre que j'ai traduit, c'est que en fait, ce morceau est devenu la synchro d'une banque. On l'a entendu pendant 10 ans à la télé française. Et il raconte que quand il vient en France et qu'il joue ce morceau, c'est comme un tube. Mais il en a presque honte d'une certaine manière. Et en même temps, il a pris le pognon de la synchro, il est content aussi. Et ce que je trouve fascinant, c'est que quand on fait du piano jazz comme ça, un peu revisité, joli, je trouve que c'est magnifique, mais tu es toujours menacé de récupération quand tu fais du joli. Et peut-être que ce n'est pas un hasard que ce morceau ait été récupéré par une banque. Et il faut faire attention quand on fait du jazz trop joli.
Ouais, attention aux banques. Qu'est-ce qu'on s'écoute ensuite, mon cher, Jocelyn. On arrive bientôt à la fin. Magic Door de Portishead.
Ah oui. Oui, oui, bah, extrait.
Si tu veux le virer, hein, j'ai l'impression que ça t'ennuie.
Non, pas du tout, non, c'est toi qui décides.
C'est vrai.
Ouais, Magic Doors sur le troisième album de Portishead, qui est mon préféré. Mmh. Même si évidemment les deux premiers sont géniaux. Et là, c'est un morceau où on voit ce que c'est qu'une chanteuse de jazz moderne, Bess Gibbons, qui a toute la technique d'une Billie Holiday, mais qui le fait d'une façon qu'on ne connaissait pas avant. We'll be right back.
Et donc ça, c'est la BO de une pub Carte Noire, c'est ça aussi.
Ouais.
Non, mais c'était pas eux. Hein. C'était qui avait fait la carte? C'était Carte Noire ou
Est-ce que tu parles d'un café nommé Désir?
Un café nommé Désir. C'était pas Portishead, mais c'était. Goldfrapp, non?
Ah, peut-être.
Je crois que c'est Goldfrapp.
C'est vrai que Goldfrapp a un côté café satiné macchiato latte Starbucks.
Exactement. Ouais. Je crois que ça, c'est cette tasse qui a été bu avec beaucoup de douceur et de volupté. Je me souviens, ça m'avait marqué.
Ah, oui.
Bref, rien à voir, c'était Portishead. Et je suis très content que tu aies mis Portishead. Le reste de ta playlist était relativement moyenne, mais alors celle-là...
Je savais que peut-être avec ça, avec un truc vraiment de beauf, peut-être que je pourrais te retenir ton attention.
Je te remercie. Donc je disais tout à l'heure, on arrive doucement vers la fin. Il nous reste encore deux morceaux. Je pouvais pas ne pas te laisser mettre Neil Young puisque tu avais un t-shirt Neil Young hier. Et vraiment, je sens que heureusement que t'as pas mis d'autres trucs, mais voilà. Donc tu veux passer du Neil Young pour dire comme c'est déjà.
Ouais, bon, évidemment, je suis fan du Neil Young que tout le monde connaît, Harvest et compagnie. Cet album, c'est un album des années 80 qui s'appelle Trans. Et pour moi, il est jazz au sens où il est totalement iconoclaste. Il est jazz au sens où On the Corner, quand c'est sorti, les gens disaient là, c'est quoi cette musique? Ça correspondait pas à ce qu'il faisait avant. Miles Davis. et c'est un album de Neil Young, mais qui est fait à une époque où son fils est dans le coma, je crois. C'est un album futuriste qui contient également du vocodeur.
We'll be right back.
Merci Jocelyn pour cette heure de jazz. Et évidemment,
merci à toi.
Non, merci à toi.
Ah non, vraiment merci à toi parce que je trouve que t'es une belle personne.
C'est très sympa. C'est vrai que tu me l'as dit plusieurs fois.
Ah ouais, t'es une belle personne.
C'est peut-être parce que je t'ai proposé de venir au Club Med avec moi que tu m'as dit. Non, donc, rien à voir. Non, c'est
je sais pas. Non, enfin, ce que je souhaite dire quand même, c'est que même si c'est quelque chose dont on a très peu parlé pendant l'émission, tu es ce qu'on appelle une personne jazz.
C'est vrai. Déjà dans ma façon de m'exprimer, je pense. Voilà.
On n'a pas scaté,
on fera peut-être ça plus tard. Donc merci pour cette heure de cette heure de jazz. Je rappelle, si vous arrivez maintenant sur l'antenne et vous dites ah non, on a tout loupé, c'est toujours disponible évidemment en podcast. C'est vrai que je fais toujours des voix de gogol pour mes auditoristes, mais alors que pas du tout si vous êtes les plus pipous du monde.
Oui, bah moi j'écoute ton émission actuellement, je suis suivi pour un problème.
Bon, tu couperas ça.
Non. Bref, les auditeuristes, donc si vous arrivez maintenant, eh ben, ça m'ennuie de vous dire que c'est terminé, mais que vous pouvez retrouver cette émission en podcast qui a été, je me permets quand même de le dire, enregistrée dans des conditions un peu spécifiques. Il y a derrière la console d'enregistrement un monsieur qui s'appelle Christopher, qui bosse pour une boîte qui s'appelle Orso Media, si je ne dis pas de bêtises. Et on le remercie parce que grâce à lui, j'ai pu enregistrer assis.
Ah oui, c'est vrai que t'es actuellement
juste tout le temps debout. Non, à la radio, il n'y a pas d'assise, il n'y a pas de chaise.
Ouais, on a bénéficié d'une installation d'un parfaite, confort, un professionnalisme à toute épreuve. Et le mec est beau gosse en plus.
C'est vrai qu'il y a tout.
Oh mon dieu. Moi, je le suis sur Insta.
On va peut-être plus
le faire. Je pense que je vais slider dans ses DM, si tu vois ce que je veux dire.
De manière très sympathique. En tout cas, voilà, merci beaucoup. C'est un peu l'instant promo quand même. Je me permets.
Ah oui,
tu sors un album.
Oui, je fais beaucoup de musique dans le cadre de Radio France.
Concurrent direct.
Oui, tout à fait. Et je sors un disque sur le label radiophonique. Peu de gens le savent, mais il y a un label interne à Radio France qui fait de la musique, alors soit de la musique expérimentale, de la musique de commande. Et là, depuis quelques temps, sur le label radiophonie, ils font une musique qui est destinée à l'antenne, c'est-à-dire que ça doit être quand même fait pour être entendu sur Radio France, mais avec à chaque fois un projet, une DA spécifique. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire ce disque un peu dans la foulée de ma fiction audio Zone 51. C'est un disque, en gros, où je revisite l'univers de la librairie musicale des années 70-80, la musique futuriste à synthé. Et j'essaye d'en donner une nouvelle lecture. Et j'essaye d'imaginer ce que serait une musique futuriste de 2060 dans un monde où il n'y a plus de croissance, où il n'y a plus d'énergie. Et les synthés, ils ne marchent pas trop. Et donc, je l'ai appelé l'eau future pour faire ce jeu de mots, parce que je sais que tu es un amateur de jeux de mots.
C'est vrai que j'aime bien les jeux de mots.
Et donc le disque s'appelle L'eau future et c'est de la musique électronique pour un monde sans croissance, en gros. Et ça sort en juin.
Sans croissance, et non pas sans croissant.
Nah, les amateurs de calembours se régalent depuis le début,
ouais,
Justin Bridoux avec Jean Charcutio.
J'ai vraiment le seum que j'ai trouvé autant de jeux de mots sur le jazz en si peu de temps.
Non, là, c'est triste parce que ça fait quelques jours que j'y réfléchis.
Ah putain, je sentais que c'était un piège. Bon, c'est pas très grave. On s'écoute. On va. Franchement, peut-être qu'on va peut-être en diffuser aussi sur Tsugi. On dira ça, le morceau que tu as fait. On dira Radio France, vous voyez, nous.
Avec plaisir, parce qu'après, moi,
on les adore, en plus, on déconne, mais c'est évidemment Didier Varro, en l'occurrence, on en parlait tout à l'heure, bien souvent dans l'émission Serge, qu'il co-anime avec Antoine Dabrowski, donc ça reste quand même une famille étendue, c'est des cousins, un peu chelou, mais c'est des cousins qu'on visite pas tous les jours, mais ouais, ils habitent très très loin, ces cousins de Radio France. On se quitte avec Midlife.
Ouais, c'est une nouveauté.
Forever.
Tu parlais de cousins, eux, c'est un peu les cousins de Parcells.
Yes.
Ils font du jazz funk électronique fusion comme on faisait en 1974, mais ils le font aujourd'hui.
Et ben voilà, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à la semaine prochaine, toujours
restez
au Club Med.
Restez jazz, restez vraiment très jazz. Oh.